1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Le Grand Tout sur Canal B qui commence, il est presque 17h pile, 17h02, une émission en direct consacrée à un anniversaire d'importance. Nous avons considéré, Lester et moi-même, qu'on avait vraiment envie de passer une heure pour évoquer, en la compagnie de quelques invités, 30 ans d'activité qui ont commencé apparemment, d'après quelques souvenirs embrumés, autour de la volonté de jouer à des jeux vidéo en réseau. C'était il y a 30 ans. Et puis aujourd'hui, ça a un peu changé, l'association Bug, il me semble.
Bonjour à tous.
Bonjour.
J'ai l'impression que ça a un peu changé, mais on va le savoir très vite.
Deux invités aujourd'hui, Richard Delogue, Stéphane Gramont, bonjour à vous deux.
Salut.
Bonjour.
Le premier, c'était Stéphane. Le deuxième, c'est Richard. Aujourd'hui, Richard, tu es directeur de Bug ?
Oui, depuis 2000.
D'accord, donc ça fait un bon paquet d'années.
26 quoi, hein, on peut le dire.
C'est assez facile à compter finalement.
Dès que c'est facile, vous pouvez compter sur moi.
Il n'y avait pas de direction au tout début de Bug, on ne savait pas ce qu'on faisait en fait.
Non, il y avait plutôt... c'est vraiment né d'un collectif de chômeurs en fait, initialement. D'ailleurs j'ai même une vidéo qui... Et ça c'est assez extraordinaire. Des chômeurs qui cherchaient à la fois du travail, une activité qui puisse... les épanouir, et puis surtout ils étaient des passionnés de jeux et de numérique déjà en 1995.
Ouais, ce qui est quand même assez fou. C'était des gens un peu inaptes au travail, on va dire habituel, avec des horaires de bureau, etc. Un peu des joyeux drilles.
Ouais, c'était. Alors il y avait ce côté joyeux drille, en effet, de gens qui n'arrivent pas forcément à s'inscrire dans le tissu professionnel traditionnel de cette époque-là. Et en plus, il y avait quand même cette idée de contre-culture qui est vraiment la substance même de la création de cet asso, parce qu'ils étaient tous quand même impliqués dans la musique beaucoup, dans l'électro qui surgissait à cette époque-là, et puis dans le rock aussi, parce qu'il y avait aussi Mick, par exemple, Mick Prima, qui faisait partie des Skippies à l'époque, etc. Donc il y avait vraiment des gens qui étaient déjà impliqués dans cette espèce de mouvement de contre-culturel de cette époque-là.
Toi, tu n'y étais pas au tout début, Richard ?
Non, moi je travaillais à l'époque à la Maison de la Consommation, et j'étais juriste et je travaillais sur les questions du numérique, mais sous l'angle des enjeux juridiques.
On va se balader là en 30 ans d'histoire avec sans doute des souvenirs parcellaires qui vont remonter comme ça, je ne sais pas, ça va être émouvant je pense. Préparer un petit mouchoir pour éponger comme ça les larmes qui pourraient arriver. Stéphane, toi tu es arrivé plus tard que ça à Bug.
Un petit peu plus tard, mais en 98, donc enfin...
Pas beaucoup plus tard du coup.
J'arrivais à Rennes, je débarquais. J'ai découvert deux choses, Canal B et Bug. Voilà, et j'ai cheminé avec les deux comme ça dans mes premiers pas dans la ville. Je venais pour bosser. Et ouais, j'ai fréquenté un peu en 98 via mon boulot. Je suis journaliste. Et Richard.
Face au micro, si tu veux, Stéphane.
Désolé. Et Richard m'a appelé au début des années 2000, je crois, pour rentrer dans le conseil d'administration.
Donc ça s'est quand même structuré bon an mal an assez rapidement, quand même.
Oui, alors le début c'était quand même de la grosse bricole.
Bon, alors parlons de la bricole d'abord, avant d'arriver à la structuration.
Ça démarre où déjà ? Est-ce que ça démarre déjà rue de Dinan ou encore avant dans un appart, une maison, un garage ?
Alors au début c'était, moi j'étais pas encore là, mais le fondateur de l'asso qui est toujours rennais, qui s'appelle Régis Le Guenec, lui il dirait que ça a commencé dans l'appartement de Tistef.
D'accord.
Donc il s'échangeait des jeux, il testait des trucs, la transmission en live, etc. Enfin via l'IRC. Enfin, je sais pas si.
Alors attention. Déjà,
je reviens. Il y a une traduction automatique pour les gens qui.
Je reviens quelques secondes en arrière. On va beaucoup parler avec des pseudos, des blazes. Il y aura Tistef, il y aura Dweez, il y aura Biki. Voilà, ça c'est des noms qui vont peut-être revenir. Mais un IRC, c'est quoi ça ? C'est un fil de discussion en ligne ?
C'est ça. C'est l'ancêtre du chat tel qu'on le connaît aujourd'hui. aujourd'hui, et c'était d'ailleurs l'IRC, c'est Internet Relais Chat. Et voilà. C'était les premiers canaux de chat, mais distincts du web, puisque aujourd'hui, ils sont tous embarqués dans le web, en fait. Mais c'est un autre protocole spécifique aux canaux de discussion.
Alors, ça sera un peu technique aussi de temps en temps, n'ayez pas peur, ça ne fait pas si mal que ça, finalement, puisque, voilà, les gens, la plupart de ceux qui étaient à bug au tout début, continue dans le métier, ou il y en a vraiment qui ont dû bifurquer, ouais, malheureusement ont disparu aussi pour certains.
Ouais, il y a un peu de tout, il y en a qui sont arrêtés en chemin, effectivement. Mais grosso modo, je crois que chacun a continué dans sa voie, hein, puisque Régis, il le dit déjà en 95 qu'il allait monter une boîte, bah il l'a fait. Biki, il est toujours juriste, ça a été le comptable de l'asso, le comptable de l'asso pendant longtemps. Beaucoup ont continué à développer, soit il y a Laurent Delahaye, dit Ashman, puisqu'on est sur les voilà. Bases, qui est aujourd'hui salarié de Bug, mais dès le début, il était dans ce... Finalement, l'asso, c'était ce que sont aujourd'hui des collectifs, oui. Donc c'était tout simplement ça, quoi. Il était dans ce collectif. Je crois que beaucoup ont un petit peu cheminé en restant eux-mêmes, je pense.
Moi, j'ai quelques souvenirs autour de l'histoire de Bug, que je ne connaissais que de loin et de manière un petit peu parcellaire aussi, vraiment, j'avais quelques idées vagues de ce que faisait Bug à l'époque, peut-être encore plus vague aujourd'hui de ce qu'est Bug, parce que finalement, elle s'est beaucoup transformée. On va discuter de tout ça pendant une heure, évidemment, de ces transformations qui font qu'elle est encore vivante aujourd'hui, 30 ans après. C'est sans doute ça le secret de la longévité. Je me rappelle d'une fête de l'Internet, en fait. On ferait pas ça aujourd'hui en 2026, évidemment. Ça viendrait pas à l'esprit de qui que ce soit de fêter l'Internet. D'ailleurs, on dirait pas l'Internet, peut-être, aujourd'hui. Ça arrivait un peu comme un ovni, finalement, mais on connaissait déjà le Minitel en France, nous, quand même.
Ah oui, et puis surtout à Rennes.
Oui.
Les politiques, à l'époque, déjà nous disaient « Ah oui, on a inventé Minitel ». Alors, je fais pas une voix de vieux volontairement.
Non, je sais que c'est ta voix.
Mais, mais je le pense. Et donc, c'est vrai que ça a été compliqué de d'imposer en quelque sorte cet usage comme étant non seulement un usage professionnel, parce qu'il y a eu la bulle spéculative, il y a eu de multiples, on va dire, événements qui ont jalonné l'histoire des internets. Mais à chaque fois, Bug s'est inscrit comme étant un peu, pas en opposition, mais un peu en technocritique, quoi. On va dire, face à tous ces mouvements, puis en affirmant le rôle des usages avant tout, plus que la technologie, parce que finalement la technologie nous intéresse assez peu, puis ce collectif il a été monté par des gens qui n'étaient pas des techniciens en fait, enfin pas tous des techniciens, mais surtout issus des sciences humaines.
Pourtant quand même certains techniciens vont aussi mettre les mains dans le cambouis et puis fabriquer des sites internet au début. Peut-être les premiers sites internet qui ont été fabriqués à Rennes venaient de la galaxie Bug. Peut-être, évidemment, on peut revenir à Rennet, rennet.org, qui est une structure qui développait des sites internet aussi.
Ah ben rennet.org,
c'était un hébergeur.
C'est probablement le précurseur, le site culturel précurseur de toute la scène rennaise, puisqu'il a hébergé quasiment l'intégralité des structures culturelles de l'époque, les transmusicales y compris, etc., etc. Mais tout le monde y est passé en quelque sorte, parce que à l'époque on n'était pas très nombreux. Alors je dis on, mais je m'inclus pas, parce que franchement mes collègues étaient beaucoup plus compétents que moi. Mais c'était les premiers et les seuls à pouvoir faire un tel travail. Enfin, je pense à Régis aussi, qui était quand même très pointu, à Mick Prima, j'en parlais. À Jean-Marc Ferron, dit Douise, qui était quand même franchement un génie, faut le dire.
On a faut
quand même
dire.
Eu du pot d'avoir, enfin j'ai eu de la chance d'avoir des collègues assez extraordinaires quand même.
Et tu faisais référence au fait de l'internet, c'était justement les new techniques, peut-être auxquelles tu pensais, qui étaient des teufs musical où on mettait le paquet de l'électro, ouais. De la musique assistée par ordinateur, du streaming à l'époque,
ouais.
Des concerts virtuels, on diffusait Canal B en streaming, etc. Donc ça tournait vraiment autour de la musique, bien que ce soit à l'époque déjà la fête de l'internet. Je crois qu'il y en a eu trois.
Il y en a eu quatre.
Il y a eu cinq new techniques, mais trois labellisées fêtes de l'internet, parce que l'idée a vite été abandonnée finalement par les autorités compétentes.
Les liens que tu évoquais juste avant, Richard, entre Canal B et Bug sont allés encore plus loin finalement, puisque les locaux que nous occupons actuellement depuis 2015 ici, alors je ne vais pas dire feu la maison des associations, non, elle est hébergée dans le grand 360, mais on est toujours dans la maison des associations au demi-sous-sol. C'est là que vous étiez, vous, auparavant.
Absolument.
Dans une vie qui allait devenir un peu plus visible, peut-être, un peu moins enterrée, un peu moins underground.
Ouais, alors en vrai, je dirais la fraternité qui existe, ou la sororité qui existe entre ces deux associations, elle est très forte. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose. Dès le début, il y a eu cette émission là sur le numérique proposée sur Canal B à l'époque à Bru. Ensuite, il y a eu des échanges constants en fait avec cet asso. Pour moi, c'est deux assos qui sont sœurs vraiment. Et d'ailleurs, Feu Yvan a été au conseil d'administration de Bug et j'ai même été au CA de Canal B pendant quelques temps. Et c'est vrai que Bug sans Canal B. Bah, c'est pas la même chose en fait.
Ah, je suis bien d'accord. Le site internet, justement, on en parlait de Canal B. Voilà, c'était bah, justement Douise voilà, qui hébergeait même.
Sur Renet à la base.
Et voilà, voilà. Et donc, oui, il y a une vraie histoire entre nous deux et avec cette émission Étoile aussi. Voilà, enfin, il y a toujours eu un lien. Et puis voilà, c'est très bien.
Il y avait deux trucs qui rythmaient l'asso qui était rue de Dinan. C'était quand est-ce qu'on fait le site de Renet, quand est-ce qu'on refait le site de Canal B, et est-ce que la grille de programmation va être en ligne à temps à la rentrée.
Voilà, c'est et parfait.
Désormais, grâce à ce beau travail de Bug, tout, on peut répondre oui à toutes ces questions. Merci,
bravo,
merci.
Vous êtes à l'heure.
Un peu de musique, et justement pour évoquer ce qu'on pouvait entendre quelques soirs sur Canal B, c'est quand le mardi soir Étoile, il me semble, il y a très longtemps.
Oui, tout à fait.
Et ben, on entendait ça, c'est le générique.
Ça a été le premier générique, le tout premier générique de l'émission.
Fugazi en 1993, quelques années plus tard, ça sera le générique de l'émission Étoile. Vous étiez peut-être les premiers à faire ce jeu de mots avec le hat de arrobase d'Antoile.
C'est ça. Bon, après, c'est devenu un peu galvaudé, voire complètement ringard, mais en effet, on était les premiers.
C'est Bug qui portait cette émission. Il y a eu pas mal de co-animateurs avec toi, Régis.
Oui, oui.
Tu peux en citer quelques-uns et puis nous rappeler ce que faisait cette émission Étoile. Elle donnait pas des tutos pour aller naviguer sur le World Wide Web.
Non, c'était. Alors, il y avait toute une partie technique. C'était plutôt les usages, en fait, qui nous intéressaient et puis l'évolution un peu de la pensée technique ou technologique, mais aussi à la pensée politique aussi à ce sujet, la communication, etc. Alors après, il y a eu en effet une multitude d'intervenants et mon prédécesseur, c'est Stéphane Médère, je crois, qui avait lancé l'émission avec même Régis, Jérôme Alphagraphe.
Oui,
et a
mais
participé.
Oui.
Je me souviens très bien, et donc il est resté pendant quelques temps dans l'émission. Et après, il y a eu une multitude de personnes, mes collègues.
Mathieu Bunel,
ils sont tous passés. Mathieu,
L'étolier, c'était. Il y avait Mathieu qui passait régulièrement. Yves Bigot, surtout, qui était le plus assidu.
Des éditions du
Ma Pomme, moi j'étais pigiste, voilà, de temps en temps. Non, il n'y avait pas
c'était hyper ouvert.
Il n'y avait pas de conducteur hyper, hyper sérieux. Et puis voilà, qu'on venait avec nos infos, quoi.
L'idée, en fait, que finalement, c'était un terrain de jeu incroyable, Internet, où on pouvait aussi faire du journalisme, on pouvait aussi faire des fanzines, comme dans la contre-culture que tu citais tout à l'heure, dans la fin des années 1960 du côté de San Francisco. Tout ça, c'était une sorte d'utopie possible. Vous avez mis du temps à voir que ça allait être dévoyé, cette utopie-là.
Mais le problème, c'est qu'on y croit encore.
Oui, mais elle a été dévoyée quand même par les grosses boîtes, mais on peut y croire encore.
Non, mais on y croit encore, mais c'est vrai que l'histoire de l'Internet, c'est pas une histoire dialectique. Il n'y a pas de sens, en fait. C'est une succession de fulgurances. Voilà. Donc, des choses qui. Il y a Alta Vista qui disparaît, qui est remplacé par Google. MySpace, qui est un truc tellement énorme qu'on se dit, ça va rester énorme tout le temps. Et en fait, ça disparaît en deux ans. Parce que Rupert Murdoch fait n'importe quoi.
Bon, c'est un pléonasme.
Rupert Murdoch. Voilà. Et donc, c'est vrai que nous, on a accompagné tout ça avec un regard assez critique, quand même, à la fois de la bulle spéculative Internet, quand il y a eu ça début des années 2000, où on a vu qu'en fait, ça pouvait pas tenir, et évidemment, ça s'est cassé la gueule. Et après, il y a eu le Web 2.0, ce qu'on appelait le Web 2.0, où il y a tous ces sites de partage.
Web contributif, en fait.
Ouais, il y a eu une espèce d'espérance, quand même. On y a cru, à un moment donné, et il y a eu le monde start-up qui commençait à se développer. Alors, les start-up, maintenant, c'est vraiment... c'est ce que c'est, c'est-à-dire quelque chose qui est en train de disparaître. Mais au départ, il y avait une espèce d'élan un peu créatif assez intéressant dans l'entrepreneuriat où on se disait peut-être que ça va changer, il va y avoir une nouvelle catégorie d'entrepreneurs. En fait non, c'est toujours les mêmes, et voire pire, puisque c'est Peter Thiel qui est quand même à l'origine d'un bouquin qui est de 0 à 1, qui est quand même la bible des start-upers et qui est quand même un type détestable dont on sait aujourd'hui à quel point il est détestable.
Oui. Et puis il y a une constante, c'est que même si effectivement, comme tu dis, il y a d'un coup les choses s'institutionnalisent, ça devient un objet économique, ça devient un objet spéculatif, etc. Naturellement, ce qui s'est passé à Bug, y compris à travers les salariés qui étaient les premiers emplois jeunes, grâce à Jospin, c'est de se dire, mais ça, comment on le rend accessible à tout le monde? Comment on le rend accessible à ceux qui n'ont pas les outils économiques, les outils culturels, etc. D'où le fait de travailler pour des assos, d'où le fait de aussi impliquer le monde de la culture, aider par exemple les trans ou l'antipode à être présent là où peut-être au niveau des conseils d'administration, etc. C'est pas une priorité absolue. Voilà, c'est un travail de faire redescendre un petit peu toutes ces bulles à hauteur d'homme et de citoyen, quoi, tout simplement.
Quelques bulles qui ont existé à l'époque, MySpace, on avait tous notre compte MySpace, notre top 10, top 15,
oui.
On était trop contents de suivre un tel et un tel. Il y a des expériences qui ont été d'encore plus courte durée, si je peux me souvenir de Second Life par exemple, qui existe encore, mais vous aviez voulu rentrer vous aussi quelque part dans Second Life.
Oui, un concert sur Second Life.
Ouais, de Jerry Tard.
Ouais, il y a eu aussi French Cowboy.
French Cowboy. Et Jerry Tard, je me souviens de Jerry Tard parce que j'étais en coulisses. Et je trouvais ça super d'ailleurs, mais bon.
Oui.
Et donc c'est vrai que, non, mais là c'était plus c'était une farce. Voilà, c'était plus utiliser Second Life pour le détourner de son objectif initial, pour diffuser un concert dans le concert qui est restitué dans la salle de concert. Bon, il y avait une mise en abyme qui était vraiment une
méta.
Mise
en abyme, Facebook, ça s'appelle
exactement
méta.
Ça. Le but, c'était de savoir si on était capable de le faire. Et oui, on est capable de le faire. Et je me souviens Jean-Louis Broussard qui avait demandé, ça sert à quoi? Rien.
Mais c'est ça qui est génial. Voilà, c'est ce côté génial, justement.
C'est pour, c'était pour le fun, quoi.
Et puis, dès qu'un nouveau réseau apparaissait, vous en appareillez pour en faire peut-être le détourner un petit peu, le transformer un truc pour le rendre peut-être au public, en fait. Twitter, par exemple, ouais. Comment vous l'avez projeté?
Avec le mur.
Là, il faut rendre à César. C'est Jean-Marc Douise qui avait développé ça. Un truc incroyable. Il avait détourné Twitter pour pouvoir en faire un city wall, c'est-à-dire qui affiche tous les tweets rangés par hashtag, c'est-à-dire par mots-clés, et on a réussi à le diffuser sur la façade du 4 bis à l'époque pendant les transmusicales, ouais, ce qui est quand même assez extraordinaire.
C'était un énorme moment.
Bah ouais, c'était. Mais aujourd'hui, c'est plus possible parce que tout est privatisé, tous les canaux de communication ont été privatisés et reprivatisés et surprivatisés. Mais à l'époque, on pouvait détourner, hacker en fait, parce que c'est du hacking, hein, oui, les réseaux sociaux ou tout ce qui nous était proposé pour en faire des choses qui puissent être partageables pour tout le monde, quoi.
Et le partage, il se voyait aussi sur le site de Canal B avec son fameux forum. Les forums aujourd'hui n'existent plus, ils ont été remplacés par les réseaux sociaux. Mais tout de même, c'était incroyable. Une belle marane quand même, ce forum de Canal B.
C'était incroyable ce forum, on en parlait partout. Les auditeurs de Canal B, ça a été une marade. Même des fois, ça partait vraiment très très loin.
Ça peut aller dans le fight
mais,
parfois.
Mais ça nous manque, hein. Ça nous manque.
Et on comptabilisait, j'y regarde parce que je suis allé un petit peu creuser les archives en préparant ces 30 ans et je me suis aperçu que c'était un puits sans fond, donc je suis pas allé au bout de ce que je voulais faire parce que franchement, mais à l'époque les connexions, il y en avait 150 000 par mois et la moitié venait des États-Unis grâce notamment à la playlist de Canal B et au forum.
Et c'est fou. Ça, il va falloir que vous nous refabriquiez un forum
pour
les amis de Bug.
Comment on le ferait aujourd'hui? C'est ça la question. Je crois qu'on organiserait des agora dans des camions, dans des bus à deux étages qui sillonneraient la France pour que les gens se rencontrent. Ça serait ça notre forum aujourd'hui.
Remplacer un forum par des bus à deux étages. Oui, pourquoi pas.
Des bus électriques, hein, bien sûr.
Mais électriques. On va pas vous montrer une galerie de photos, hein. Ça serait un peu compliqué.
On peut le faire, mais ça va être un peu chiant.
On va pas le faire, mais tu m'avais sélectionné, Richard, quelques archives photographiques. Parmi celles-ci, des photos de geeks derrière leur ordi, des photos de flyers de soirées électroniques, parce que vous avez été vachement, j'utilise un terme de vieux, mais beaucoup, à proximité des structures musicales aussi.
Ah oui, parce qu'en fait, mes collègues, alors moi, parce que je suis moins versé dans les cultures électroniques, mais en revanche, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Mes collègues étaient très, très impliqués dans la vie nocturne électro. Jean-Marc a fait partie du bureau, il était président d'ailleurs de ce qui organisait les Millennium Factory.
Ouais, ouais.
On était très proche des Anti-Clockwise organisés aussi au chantier. Le chantier était le repère de mes collègues.
Un bar au bas de la place d'Élysée pour ceux qui n'ont pas connu.
Voilà. Ouais, qui était à l'époque, c'était Carl Séguin qu'on était le patron, qui est aujourd'hui le patron du Panama.
Tout à fait.
Mais un type super aussi. Enfin, vraiment, on a passé, ça a été des moments incroyables.
Il y a eu des soirées.
Sur le plan professionnel. À la fois, moi, j'ai appris énormément de choses. J'ai beaucoup ri. Ouais. Et c'était des moments vraiment intéressants. Et puis, ça a fait émerger aussi. C'est le moment où pas mal de DJ rennais ont émergé. Je pense à Tao Pai Pai, DJ
Old
School Nemo, Azax, qui a été le DJ résident, de Bug, puisqu'il a fait le second générique aussi d'Itoile pendant des années. Et puis, c'est quelqu'un avec qui on a toujours gardé des contacts assez proches. Les Nuits Techniques, c'était qu'une programmation de DJ. Il y a Christelle aussi qui était très proche de DJ Kaikoura. Enfin voilà, c'est vraiment toute la scène, Olivier B à l'époque, etc., toute la scène émergente de l'électro locale.
L'association Bug, qui avec un pied de nez avait choisi ce nom, qui est un petit peu ce qui ne va pas dans un programme informatique, le bug, c'est ce qui fait que ça dérape. Il y en a eu un en l'an 2000, on l'a pas vraiment vu passer, ce bug là, mais dans ces soirées à l'époque, je crois qu'on entendait ceci. de la drum and bass avec des contrebasses live hein, sur ce titre de Ronnie Size, Brown Paper Bag, le roi de la drum and bass, la jungle, on l'appelait comme ça à l'époque. C'est en 1997, on est ici dans Le Grand Tout aujourd'hui pour parler de ces 30 ans d'activité de l'association Bug. Il y a une petite fête qui est organisée aujourd'hui, ici dans le 360, au lieu des associations rennaises, évidemment. L'association Bug s'est transformée, évidemment. Elle n'est pas restée juste une bande de geeks qui passaient leur nuit à coder et qui dormaient le jour quand ils pouvaient dormir.
Qui dormaient pas du tout.
Qui dormaient pas du tout. Et c'était pas seulement non plus des organisations de soirées électroniques et la fabrication des premiers sites internet du web rennais. C'est devenu quoi près de 10 ans après les débuts en 1996?
Alors déjà, on n'a pas beaucoup parlé de l'accompagnement. En fait, dès le départ, Bug a été vraiment très soutenu par la ville, en fait. Et donc, il y a eu assez rapidement une convention avec la ville qui visait à créer les espaces publics numériques qui existent toujours aujourd'hui. Il faut le savoir, c'est une des villes d'ailleurs qui s'engage le plus au niveau national sur la médiation numérique. Et Bug a accompagné la création de ces espaces publics numériques et a continué à accompagner, je le fais encore d'ailleurs aujourd'hui, il y avait une réunion ce matin, depuis 26 ans, depuis quasiment 30 ans maintenant.
Et ça se manifeste comment pour ceux qui n'y ont pas accès à ces espaces publics numériques?
Bah, c'est dans les maisons de quartier, c'est-à-dire que ce sont tous les animateurs qui sont présents dans les maisons de quartier, mais qui constituent un réseau qui est animé par Bug depuis 1998. Voilà. Et donc ça a été très fort. Par ailleurs, la ville nous a aussi sollicité ensuite pour organiser des formations, y compris de son personnel à l'époque, pour une acculturation au numérique. Bon, il y a quand même un DIRCOM de l'époque qui affirmait à Régis Le Guenec que l'Internet était un mouvement de mode et que ça ne durerait pas.
Il y a des visionnaires comme ça.
Ouais. Et il y avait donc, Jacques Chirac et puis il y avait cette personne à la mairie.
C'est ça, bon, Jacques Chirac. Voilà. Non, mais c'était, c'est bon, c'était, voilà, ça fait partie des choses rigolotes qu'on a entendues. Voilà. Mais, et donc, c'est vrai qu'après, la ville, au fur et à mesure, nous a confié d'autres missions. Et à un moment donné, par exemple, le service d'imprimerie qui a été repris en 2005, par exemple, de la maison des associations qui est devenue aujourd'hui 360. Et donc, c'est imprimerie associative. Ça tombait sous le sens parce qu'on a contribué à la numérisation, on va dire, du processus, d'impression. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais voilà ça. Et puis ensuite d'autres types d'accompagnement, voilà, plus juridique et financier, et puis sur le conseil de la structuration. Mais du fait de cette expérience qui a été acquise au fil des années.
Des expériences numériques ont été menées à grande échelle, avec notamment, après l'arrivée peut-être de Facebook en 2004, l'envie de créer un réseau social local. Ça, c'est la ruche. Ouais. Ça n'a pas duré très longtemps, l'engouement, ou
ça a duré 5 ans.
Perduré, quoi.
Quand même. Et
5 ans, c'est pas mal.
5 ans, c'est pas mal, d'autant que il y a un élément fondamental dans quand on crée un réseau social, c'est la question de la synchronisation. Est-ce que c'est synchronisé par rapport à l'usage qu'on attend ou pas? Bon, c'était trop tôt, on va dire, je pense, ou trop tard, mais en tous les cas, et puis bon, Facebook a tout écrabouillé, mais il y avait l'idée de partir d'un projet qui existait auparavant qui s'appelait Peuplade, qui était le réseau local. Avec une protection des données personnelles, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel on était aussi extrêmement vigilant depuis l'origine de l'assaut, et puis sans modèle économique. Et donc finalement, ça a quand même fédéré, je crois, alors si je me souviens bien, jusqu'à 5000 usagers, ce qui est pas mal sur la ville, dont un grand nombre de personnes morales, c'est-à-dire des associations, oui. En fait. Voilà. Donc ça a été, c'est un semi-échec, on va dire. En tout cas, c'était une grande aventure technologique, technique. Je crois que mes collègues ont beaucoup appris, et puis nous aussi, mais on regrette absolument pas.
L'association Bug aujourd'hui compte 14 salariés.
Oui.
C'est bien ça. Ça n'a pas été toujours le cas, évidemment. Ça a commencé juste avec un, puis deux. Bon, comment ça s'est un petit peu... comment ça a grossi, ça,
le nombre des
salariés?
Avec les... Il y a eu 4 emplois jeunes. C'était une opportunité. Et c'est ce qu'expliquait Richard avec ces emplois jeunes. Le fait de nous accorder des emplois jeunes, le deal, c'était de trouver des missions de service public, entre guillemets, enfin, pour la cité. Et puis, du coup, pendant des années, et on va dire il y a bien 15 ans, où il y a eu toujours une marge de Bug sur deux volets, en fait, sur deux jambes. Toujours ce côté contre-culture, ce côté techos, cet amour de la musique, ce lien fort avec Canal B, mais à côté, Richard, bien sûr, et puis ensuite d'autres profils. Il y a eu un journaliste, à Bug pendant longtemps, des missions, aller chercher des projets, parfois des projets européens. Le premier, c'était le défi Jeune Marin, par exemple. Alors, Bug gérait le côté création de site avec du design et de la technique, mais très vite, à l'instar de ce qui se fait dans les maisons de quartier, l'animation d'équipe, le conseil sur à quoi ça sert, c'était jamais la technique ou la création technique pour la technique. Et d'ailleurs, ensuite, c'est vrai qu'il y a eu de nouvelles missions et de nouveaux locaux, avec notamment la maison des associations où on a récupéré les missions et une partie des salariés de l'ancien office des associations rennaises. Évidemment, ça a changé un petit peu de visage. Richard évoquait l'imprimerie, on l'a numérisée, mais on n'a pas fait que ça. On a conservé cet esprit de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une imprimerie municipalisée, si je puis dire, et confiée à une association au sein d'une maison des associations. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout une asso de Técos. D'ailleurs, il y a Laurent qui est toujours là, mais il s'occupe du Fab Lab, donc on en parlera, mais c'est autre chose, c'est une autre aventure. Et sinon, c'est du design social, quelqu'un qui programme les instantanés ici dans la maison des associations.
Salle d'exposition ici dans le hall.
Qui est en expo, on va pouvoir en dire un mot. Et donc il n'y a plus tellement de technologie, mais il y a toujours ce côté usage et ce côté réfléchissons quand même à ce qu'on fait.
Les usages sont le plus partagés possible, hein, c'est ça que vous essayez de faire finalement. L'arrivée de ce LabFab à la française, laboratoire de fabrication. L'arrivée de ce LabFab à Rennes, ça n'a pas été à la maison des associations en premier, il était ailleurs. Et...
C'était à l'école des Beaux-Arts, et parce que la maison des associations était en travaux à l'époque. Et donc, comme il fallait qu'on le fasse assez rapidement, pour marquer le terrain en quelque sorte. Ça a été le deuxième Fab Lab qui a été créé après celui de Toulouse quand même. Donc quand même encore une fois des précurseurs. Là je dis d'autant plus qu'il n'y avait pas que Bug. Hein. Il y avait en effet les ABS, il y avait Hugo Bain aussi à la ville de Rennes, etc. On était plusieurs en fait autour de ce projet-là. En revanche, on a été en effet parmi les premiers. Dans un premier temps à les ABS avec John Lejeune qui en assurait l'animation. Et puis ensuite à la Maison des Associations dès qu'on a pu réintégrer les locaux à l'issue du programme de travaux qui...
Voilà. Expliquer peut-être ce qu'est voilà.
Qu'un LabFab,
parce que là on dit LabFab, mais peut-être que derrière la radio, le mec il dit quoi, c'est quoi ça?
Eh bien oui, réponds à cette question.
Laboratoire de fabrication numérique. En fait, initialement, ça provient du MIT et donc c'est sont des profs du MIT et un en particulier Neil Gershenfeld qui est à l'origine du principe d'ouvrir l'accès à des machines à commande numérique à des profanes. Ce qu'on appelle des pro-âmes, d'ailleurs, des amateurs qui ont un niveau tellement important, mais qu'on n'ont pas conscience, qu'ils ont acquis un niveau quasiment professionnel, pour fabriquer des choses et partager, surtout c'est ça qui est révolutionnaire, les plans et toute la propriété intellectuelle, en fait, de tout ce qui est conçu dans un Fab Lab.
Et il fonctionne encore bien aujourd'hui ou finalement ça a été un feu de paille ça aussi ?
Ah non.
Je parle de Second Life ou de la ruche qui n'ont pas marché très longtemps.
Ah oui, en effet.
Qui ont fonctionné quand même. Hein.
Alors les Fab Labs, c'est un réseau qui fonctionne toujours à Rennes. Hein. Il y avait une réunion la semaine dernière d'ailleurs. Il y a une dizaine de lieux, je disais une dizaine, mais je crois que c'est plus encore. Au moins, je dirais, qui sont aujourd'hui labellisés ou pas d'ailleurs, peu importe, ouverts avec des imprimantes 3D, des laser cuts, des composants électroniques open source, etc. pour offrir aux Rennais la possibilité de créer leur propre prototype ou d'apprendre la technologie, mais autrement que par le biais de boîtes noires qu'on achète et qu'on est dans la capacité de réparer.
Et puis ça peut permettre par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a une main en moins à moins cher de pouvoir, alors ça, je sais pas le résultat vu que j'ai eu la chance d'avoir les deux miennes, mais enfin on a vu ça et je sais qu'à Rennes ça existe et je trouve ça assez fabuleux quoi de pouvoir faire ça quand même.
Ouais, c'est le projet My Human Kit.
Oui, c'est ça, My Human Kit.
Qui est aujourd'hui à Scoria et en fait qui a été accompagné au départ, même dans la pépinière qui est d'ailleurs juste derrière moi, dans la maison des assos, enfin dans 360. Et donc c'est un projet qui est né en effet au LabFab de l'ESAB et ensuite qui a été accompagné par Bug et d'autres pour se développer.
Et on peut parler aussi de système d'équiper des moteurs de trottinettes électriques sur des fauteuils mécaniques pour des personnes à mobilité réduite qui n'ont pas exactement les moyens, en tout cas il n'y avait pas les moyens avant qu'on nous dise que ça serait totalement remboursé et qu'on puisse faire équiper
leur fauteuil. Ou d'imprimante en braille.
Ouais, voilà.
Qui techniquement existent, mais qui sont, n'intéressent pas tellement les industriels, donc ça se commercialise peu, alors que c'est pas si compliqué à mettre au point, donc on le fait ici, quoi.
Dans les années 1980, je me souviens de l'informatique au collège. J'avais fait quelques cours de basique sur des TO7 et des MO5. Eh bien, le musicien qu'on écoute maintenant l'a peut-être fait aussi. Vous allez peut-être reconnaître des sons de Windows. Oh, on va parler des GAFAM juste après un peu. De la musique d'ordinateur, c'était Philippe Catherine à l'instant, un petit souvenir de l'année 2010, vous avez reconnu peut-être le son d'ouverture de Windows 97 je crois, bon peut-être pas, 98 ?
Alors là, Windows,
une voilà. Colle, tu leur as mis une
voilà,
colle.
Voilà, wow. Dès qu'on parle de Windows, qu'on parle de Apple, tout ça, je vois, non, c'est pas fun. Ça dépend. Les fameuses GAFAM, Google, Apple, Microsoft, c'est quoi les autres déjà?
Amazon.
Apple, Amazon. Ah, ouais. Bon, maintenant, il y a Netflix, voilà. Tu peux dire Airbnb.
Les GAFAM, ils font.
Airbnb, OpenAI, ouais. Anthropie, c'est effroyable.
Longtemps, et c'est encore le cas sans doute, Bug, c'est un peu posé quand même en alternative à ces gros mastodontes, mais vous utilisiez quand même, vous avez utilisé quand même parfois des outils systèmes de chez Windows ou de chez Apple.
Ah oui, ça, on a utilisé Windows, on utilise Linux, on utilise Apple, on utilise même les casques Meta. On a utilisé aussi la Kinect à l'époque, d'où ils avaient complètement détourné d'ailleurs, et complètement hacké pour en faire un outil assez extraordinaire qui permettait de visiter la ville de Rennes en 3D juste avec les mouvements de la main. Après, ce qui nous intéresse, c'est détourner, toujours, tu le disais tout à l'heure, c'est détourner aussi tous ces outils pour en faire quelque chose d'utile, quelque chose qui révèle en fait un usage qui n'est pas forcément celui auquel il était destiné au départ, ou pour en faire... une œuvre ou je sais pas, enfin quelque chose d'autre en tout cas.
Quelque chose de libre aussi.
Ouais, de libre et qui soit partagé et voilà. Qu'on puisse montrer.
Donc on voit bien que vous n'êtes pas des anti-technologie, c'est pas ça le truc évidemment, c'est l'utiliser pour le bien commun évidemment plutôt que pour les intérêts personnels de certains qui vont se faire de la thune avec. Bon,
on n'est pas tellement geek hein, en fait. Hein. On n'est pas geek, hein. Il n'y a pas de geek dans l'assaut aujourd'hui et ni au CA. Mais tu vois, il y a les systèmes ouverts, Linux, etc., qu'on connaît bien. Mais effectivement, les GAFAM, le propre de ce qu'ils proposent, c'est des systèmes fermés. commercialisés et fermés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on peut les ouvrir. Alors, on n'a pas les compétences de hacking que Dwiz avait à une époque, et on ne se range pas dans cette catégorie-là, ni même des hackers éthiques. Mais si on parle des algorithmes, par exemple, on a fait un hackathon. Je laisse la traduction simultanée opérer sur comment réparer Parcoursup. Parcoursup, c'est régi par un algorithme. Cet algorithme, qu'est-ce qu'on en sait? Comment est-ce qu'on peut le regarder? Et si on peut le regarder, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Et comment on situe nous aujourd'hui à Bug? C'est d'inviter des gens qui réfléchissent à ça. Et ensuite d'organiser ces événements sur un week-end où il va y avoir des équipes pluridisciplinaires. Alors là, peut-être qu'il y aura des hackers éthiques, mais aussi des designers, mais aussi des profs, des gens du rectorat, etc. Et de se dire, peut-être pas en masse. voilà, comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, réparer Parcoursup? Et c'est assez emblématique de comment on se positionne aujourd'hui Bug par rapport aux technologies et aux GAFAM en général d'ailleurs.
Dans certains ateliers menés d'éducation aux médias, par exemple, d'information aussi sur le traitement des données et puis la récolte des données faites par ces fameuses GAFAM, vous avez un public jeune qui s'intéresse à ça?
Actuellement, par exemple, on intervient dans le quartier de Villejean à Rosa Parks, au collège Rosa Parks, pour travailler sur les outils d'intelligence artificielle générative et les détourner justement de leur objectif initial pour évoquer tous les enjeux qui sont liés à cette IA générative et à l'IA de manière générale. Donc on évoque avec des collégiens de 4e tous les enjeux, c'est-à-dire la question de la sobriété, de la facture énergétique, on va dire, et environnementale de l'IA qui est absolument effroyable, la question de la désinformation, etc. Et ensuite, on fabrique ensemble, à partir de certains outils d'IA générative, une exposition qui va d'ailleurs être montrée très prochainement à la Maison des Assos. Donc ça, c'est vraiment une manière d'embarquer aussi en mode Fab Lab dans de la production des jeunes et des moins jeunes pour qu'ils réfléchissent en fait à l'impact de leurs usages. Voilà. C'est un peu notre méthode.
L'IA qui est un petit peu la tarte à la crème de tous les sujets techno aujourd'hui, hein, on la met à toutes les sauces évidemment, pour autant tu ne la jetterais pas totalement avec l'eau du bain en fait, pour peu qu'elle soit pas seulement générative et qu'elle soit mise dans les bonnes mains et pas utilisée n'importe comment.
Alors sur l'IA générative, je pense qu'on a à peu près la même position qu'on avait lorsqu'il y a eu la mission destinée à l'adoption du réseau 5G, c'est-à-dire qu'en fait on considère que ça peut être utile et que ça l'est, hein, probablement pour les hôpitaux par exemple, je parle de la 5G, oui. ou dans l'industrie ou dans la santé, mais qu'en revanche je vois pas l'intérêt qu'on peut avoir à regarder des vidéos de chats qui jouent du piano en 5G sur un écran de 4 pouces quoi. Ça n'a aucun intérêt.
Dans le métro, quoi.
Voilà, ça n'a aucun intérêt. Et puis surtout, la facture environnementale de fabrication de tous les terminaux qui permettent l'installation de la 5G, elle est trop importante. C'est pareil pour l'IA, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire 15 millions de litres d'eau consommés chaque jour par les data centers dédiés à l'IA, c'est pas supportable. Voilà, le modèle économique, par ailleurs, il ne tient pas. Donc c'est pour ça que tous ces modèles vont pas y passer en payant. Et là, on va voir que l'adoption va être moins importante. En effet, c'est un peu la tarte à la crème. C'est surtout extrêmement dangereux. C'est approprié par des gens qui sont pas aujourd'hui des gens très recommandables. Voilà, il y a le bouquin de Pesquet et Adjadji là-dessus qui s'appelle Les technofascistes, qu'il faut à tout prix lire, qui est assez éclairant à ce sujet. Donc c'est vrai que nous, à Bug, très clairement, on est très technocritique au sujet de l'IA. Voilà, ça, aucun doute là-dessus.
On fait une autre pause musicale, on va arriver vers la fin de cette heure, mais il reste encore un quart d'heure, donc on a encore plein de choses à apprendre de la part de Stéphane Gramont et Richard Delogu, nos deux invités, autour de ces 30 ans de l'association Bug. On va arriver peut-être sur le temps présent, parce que vous n'avez pas encore tout dit ce que fait encore aujourd'hui l'asso Bug. Un morceau que j'exhume de ma playlist de 2008, tiens, Monsieur Oiseau, que j'avais vu au Transmusical d'ailleurs, et que vous avez peut-être vu aussi, je sais pas si à l'époque il y avait les tentatives de retransmettre sur Second Life ou sur un IRC croate le concert.
Le célèbre IRC croate. Mais
le fameux.
Tu, tout le monde. Voici la musique d'ordinateur. Tire ou meurs.
Quentin Dupieux, alias Monsieur Oiseau, dont vous n'êtes pas obligé d'aller voir tous les films, mais
il y en a trop.
Mais écoutez sa musique de temps en temps aussi. C'était le fameux Pourriture 7 sur l'album Lamb's Hunger en 2008. Vous écoutez Le Grand Tout, spécial les 30 ans de l'association Bug, avec nos deux invités Stéphane Gramont et Richard Delogu. Le premier est président, le deuxième est directeur. Et puis Lester Brome qui est à la fois président directeur et
voilà, je supervise, je suis superviseur. Je donnerai une note à la fin évidemment, c'est logique.
30 ans d'activité, on peut pas évidemment se dire que quand vous avez commencé à jouer à des jeux en réseau et faire quelques petits sites internet, les créateurs, peut-être vous n'étiez pas là en 1996, imaginez qu'aujourd'hui, 30 ans après, Bug serait une entité différente, en fait, finalement. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous êtes transformé, bien normal. Aujourd'hui, si vous deviez dire ce qu'est Bug en deux phrases, je dirais pas en deux mots, parce que c'est pas possible, je suppose, c'est quoi exactement comme structure, en fait? Ça regroupe tellement d'activités que ça paraît un peu complexe à voir de l'extérieur comme ça.
Bah aujourd'hui, c'est une structure qui est en retrait, qui est un peu, c'est pas une structure fantôme, mais on est une structure qui accompagne les associations, donc qui a récupéré des missions qui existaient avant dans d'autres structures. On a éditorialisé, c'est un mot à la mode, alors je le glisse, la maison des associations et ce qui est maintenant le 360, parce que justement il y a des nouvelles missions qui s'ouvrent sur la jeunesse, donc là Bug va travailler en coordination avec tous les gens qui composent ce réseau,
parce que quand même
l'émission locale, oui, la radio,
une salle d'exposition,
voilà, la salle d'expo, etc.,
diverses associations, bien sûr.
Et puis il y a toujours cette espèce de petit cœur qui bat quand même, des projets de Bug pour Bug. Et c'est là où aujourd'hui, alors désolé, j'ai explosé le nombre de phrases.
C'est vrai.
On va continuer à travailler sur la réflexion, être technocritique ou une réflexion critique en tout cas sur ce qui nous entoure et à travers des moyens issus justement de la culture numérique prioritairement.
Richard, ta définition en deux phrases. Ou 8, ou 12,
t'en
ou
plus
16.
Non, il y a deux jambes aujourd'hui à Bug depuis. C'est l'accompagnement associatif sous toutes ses formes. Donc ça va de du financier, juridique, structuration, gouvernance, etc., etc. Tout ce que le RH, tout ça, et la partie usage numérique. Voilà, c'est vraiment je trouve les deux voies. Et autant au départ, il y avait deux voies, j'ai assez distinctes avec des salariés qui étaient spécialisés dans l'une ou l'autre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez bien partagé. C'est-à-dire qu'on a adopté aussi, c'est un détail, mais forcément c'est assez révélateur, une suite numérique, une suite numérique open source aussi, qui n'est plus du Microsoft, qui n'est pas du Google, qui n'est rien d'autre que ça. Et ça, tout le monde l'a adopté. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment après sur un niveau d'acculturation qui est quand même assez élevé de l'ensemble des salariés et des administrateurs sur les enjeux du numérique aujourd'hui. Et c'est sur l'IA, c'est sur la sobriété numérique, c'est sur les Fab Labs, la réparabilité, sur les Repair Café, sur une multitude de choses, mais où on est dans le partage de la créativité et surtout de la coopération quoi, entre tous ces créateurs.
Et tu parlais de l'accompagnement associatif, donc on dirait en rantaine, mais pour que les gens se rendent compte, là, par exemple, sur une année, c'est environ 800 associations. Oui. Donc on peut dire, mais en fait, nous, on a toujours l'impression de faire un Bug, vous agissez un peu dans l'ombre, en fait, mais vous êtes, et c'est hyper important. Et c'est aussi un souhait, un peu, je pense, de rester un peu dans l'ombre comme ça.
Ah, c'est oui,
c'est-à-dire
il y a une discrétion. Il y a une discrétion. C'est pas la volonté, c'est pas de communiquer à tout va d'ailleurs. Communiquer, voilà. Mais pourquoi dire et pourquoi faire? Donc on préfère le faire lorsque c'est vraiment nécessaire. Par exemple, lorsqu'on organise un marathon créatif, le hackathon de parler sur Parcoursup, ou lorsqu'on organise l'événement Fabrique, par exemple, qui est dédié aux makers, c'est-à-dire à ceux qui fréquentent des Fab Labs et qui fabriquent des choses avec les Fab Labs, qui a lieu, qui est plutôt destiné aux scolaires, qui a lieu chaque année au mois de septembre et depuis deux ans au Grand 8, et qui a lieu fin septembre, là, cette année encore. Mais sinon, c'est vrai qu'on préfère rester dans la discrétion pour bosser, en fait, pour structurer le monde associatif Freinet, qui est quand même hyper riche. Oui. C'est une mission passionnante. En plus, qui se fait avec en bonne intelligence avec les services de la ville, de la DG notamment. Et franchement, c'est un métier passionnant. Hein. C'est assez. Mais je comprends que ce soit compliqué d'expliquer quelle est la, le domaine d'activité de l'asso aujourd'hui.
Alors, on n'aura pas tous les mots que vous avez utilisés, mais je vous proposerai comme ça, en petit slogan, faire, accompagner, détourner. Je pense que c'est pas mal.
Parfait, ouais. on va délibérer au prochain conseil d'administration.
Ça fait fade. Oh merde, c'est alors cool. Là, le Fad Lab.
Quel bon. Talent.
Pardon, désolé, j'avais pas fait gaffe à ça. Ah, bah, il faut qu'il y ait deux personnes qui vous accompagnent ou que vous choisissiez vos propres slogans. Voilà, on va rester comme ça. Comment vous la prêchez, cette bonne parole, autrement qu'à travers les ateliers que vous animez dans des lieux, des collèges, passer cette suite numérique et l'amener par exemple dans les établissements d'enseignement, ça c'est pas possible. Auprès des services publics, c'est possible, mais seulement sur le plan local, peut-être. Comment vous allez la prêcher donc cette bonne parole?
Ah mais c'est un travail de fourmi. C'est-à-dire que chaque jour, le but c'est d'acculturer une, deux, trois personnes. Faut pas se dire qu'on va pas, c'est pas un travail de masse, c'est impossible. Mais il y a quand même des enjeux hyper importants. Par exemple, Windows a changé là, où c'est bon, passé à 11, il y a beaucoup de machines qui sont retrouvées complètement obsolètes. Aujourd'hui, la solution c'est de passer sur Linux. Donc globalement, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même pas mal de personnes qui commencent à passer sur Linux, y compris des gens qui sont pas du tout des geeks. Donc notre rôle c'est d'accompagner aussi ce mouvement-là. Notre rôle c'est aussi d'accompagner celui du gouvernement qui pour une fois a fait une bonne chose ces derniers temps, c'est de lancer la suite gouvernementale qui est devenue la suite numérique, où là, on utilise enfin un numérique souverain. Voilà, sur des applications qui sont plus des logiciels d'exploitation, je pense à des tableurs, des logiciels de partage de documents, etc., etc. Donc là, il est en train de se passer un truc, hein, en fait. Hein. Il y a quand même une réaction à l'encontre des GAFAM, des usages des GAFAM, et de leur manière de privatiser, en quelque sorte, l'Internet. Au départ, l'Internet, c'était une multitude de protocoles. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un, on a l'impression qu'il n'y en a plus qu'un. Et en plus, au milieu, et au sein même de ce protocole qui est le web, il y a une privatisation accrue de tous les canaux. Quand on utilise OpenAI, on est chez OpenAI, mais qui exploite des données qui sont sur Wikipédia, qui est financée par des dons. Enfin, je veux dire, ça s'appelle du parasitisme sur le plan économique. Donc, faut bien avoir. Et c'est, notre rôle, c'est ça. C'est d'acculturer au plus jeune âge. C'est pour ça qu'on essaie de le faire avec les quatrièmes, mais aussi les adultes, pour leur dire, tout usage numérique a un impact. Et impact politique, économique, environnemental, etc. Donc, notre job, c'est ça. Mais c'est un travail quotidien, mais c'est passionnant.
C'est un travail de proximité aussi. On se positionne pas comme une association militante au sens où on ferait du lobbying, des actions, etc., etc. C'est le travail qu'on peut faire en proximité, voilà, cet aspect discrétion et sur la place publique, c'est important aussi. Voilà.
Et en proximité, justement, de ces associations que vous accompagnez régulièrement.
Tout à fait.
Un grand nombre, 800,
c'est assez
vertigineux,
c'est vertigineux comme
chiffre. Elles sont en fragilité en ce moment, les associations, sur un plan financier, évidemment, des engagements multiples. Et puis aussi, on a l'impression philosophique aussi, peut-être. Difficulté de renouveler les bénévoles d'une association. Ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans nos associations diverses, Canal B ou Bug. Vous ressentez ça aussi, qu'il y a ces difficultés chez les assos rennaises?
Alors oui et non, parce qu'il y a une manière de mobiliser les plus jeunes en fait sur des missions de bénévolat. Ils s'engagent plus du tout de la même manière, donc c'est à nous de nous adapter en fait pour que ce soit le cas. Alors en effet, à Bug, nous on n'est pas, c'est pas une asso qui génère, on va dire, un engouement phénoménal du côté des propositions de bénévolat. C'est probablement notre faute, hein, parce que c'est une asso de geeks un peu et puis de gens un peu d'experts quoi. Mais je dirais pas que le bénévolat est en crise. Pour moi justement, c'est l'occasion là, cette crise là, et l'occasion de trouver de nouveaux espaces pour susciter l'intérêt des plus jeunes via des stages, via d'autres formes de mobilisation, on va dire. Il y a des assos qui le font très bien à Rennes, je pense Beninova par exemple le fait très très bien avec les plus jeunes, mais c'est un vrai job.
Vous retrouvez en tout cas Bug en ligne, évidemment. C'est quoi l'adresse déjà?
360.bzh pour le 360 et asso-bug.org.
Voilà. Et dans le 360, pas mal d'autres assos que vous pourrez découvrir. Merci à vous.
Merci
évidemment,
beaucoup.
On aurait pu continuer plus longtemps et surtout raconter beaucoup plus d'anecdotes de foirage technologique, parce qu'il y en a eu, mais il n'y a pas eu que ça. La preuve, vous êtes encore vivant 30 ans après. Merci à vous. Bravo à Bug et à toutes les équipes, les bénévoles, les salariés.
Dans 30 ans.
Voilà, dans 30 ans, c'est ça. Merci Lester et puis merci Stéphane.
Salut.
Et Richard, on termine avec un morceau très récent d'un groupe très ancien. Ouais, bah c'est comme Bug en fait.
C'est ça, c'est un morceau de Bug.
Boards of Canada, ça fait Bok.
Ah, oh, ouais. Oh.
On l'écoute, c'est sur l'album Inferno qui est sorti il y a quelques mois, il est très très bon. Ciao.
I love you, but I love the Lord. Lord, I love any physical being. I think that's wonderful. But then why can't you bring that same feeling home?
I want them.
I really wish that I could do that.
No, I never did it. That was atypical.
What makes you think you can do it?
I wash over that.
Well, he said, a man's fellows will be they of his own household. Well, I hardly believe that your own father or mother or brother or sister would be your enemy. You're gonna call him a liar? No, I'm not calling him a liar. Well, I can do all things through the Lord. He can do it. You saw the way we live and what we did, you believe? I really don't think so.
Let's see, I've lost track.
Lord, I love any physical being. I think that's wonderful. Well, he said, I love you, but I love the Lord.